Venez, vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Histoire qui nous conduiront, au fil des mois, à travers le Sud. Notre Sud, ce pays où il fait souvent si bon vivre, entre l'Atlantique et la Méditerranée, entre les Pyrénées et une ligne vague, qui se situe au nord de l'Aubrac, mais pas trop au nord quand même, il faut pas exagérer. Chacune d'elles aura un thème et, cette fois-ci, nous allons voyager avec un montreur d'ours qui s'appelait Jean et avec l'ours du nom de Bootsy. L'Oussaillé, une nouvelle écrite et lue par Bernard Bonne. Cette histoire se passe juste avant la Première Guerre mondiale. À cette époque-là, l'activité de montreur d'ours était tout sauf anecdotique dans les Pyrénées, et en particulier en Ariège, aux alentours du village d'Hercé. Des dizaines d'hommes se consacraient à cette profession, et il n'était pas rare d'apercevoir l'un d'entre eux cheminant, d'une ville à une autre, accompagné par son ours tenu en laisse. Ces hommes, vêtus de grosses bures, coiffés d'un grand chapeau ou d'un énorme béret, tenaient d'une main un solide bâton de cornouiller et de l'autre la chaîne à laquelle l'animal muselé était attaché. Ils portaient un nom bien à eux, on les appelait des oussaillés, et c'est ainsi que nous allons désigner Jean, notre héros. Ce dernier était un oussaillé d'un genre un peu particulier, car, pour apprivoiser Bootsy, l'ours qui l'accompagnait, il n'avait pas eu recours à la méthode ô combien cruelle qui était habituellement pratiquée. La mère de l'ourson était tuée, la plupart du temps, car elle préférait se battre jusqu'à la mort plutôt que de voir son petit enlevé. Ensuite, le jeune animal était castré et dressé selon des méthodes pleines de rudesse. Jean, lui, n'avait pas arraché l'ourson à sa mère. Il avait découvert Bootsy au milieu d'un chemin forestier, à côté du col de Mante, où la pauvre bête, couverte de plaies, était en train d'agoniser. De toute évidence, elle avait été séparée de sa mère, soit par accident, soit parce que cette dernière avait été pourchassée. Jean ne se posa aucune question. Comme toujours quand il trouvait un animal blessé, il fit de son mieux pour le soigner et le remettre sur pattes. Car Jean était un drôle de type et je me rends compte que je ne voulais pas encore présenter. En l'occurrence, je manque vraiment à tous mes devoirs de conteur. Jean était le dernier né d'une famille de 8 enfants. Le père et la mère possédaient une ferme minuscule du côté d'Ustou et la venue au monde d'un nouveau rejeton n'y était jamais accueillie comme une bonne nouvelle. Tout le monde travaillait et devait gagner son pain sans rien attendre des autres. On tentait sa chance comme on le pouvait, où on le pouvait. Jean, lui, dès qu'il fut en âge de le faire, partit sur les routes pour mener une vie errante de musicien, de comédien, de batteleur.
Partire, partirò, partir bisogna. Dove comanderà nostro sovrano? Prenderà la strada di Bologna e chi andrà a Parigi e chi a Milano. Se tal partenza cara ti sembra amara, non lacrimare, vado alla guerra e spero di tornare. Quando saremo giunti all'abetone, riposeremo la nostra bandiera. E quando si udirà forte il cannone, addio Gigina cara, buonasera. Ah, che partenza amara, Gigina cara, mi convien fare. Sono coscritto e mi convien marciare. Di Francia e di Germania son venuti a prenderci per forza militare. Però allor quando ci saremmo battuti, molti, mia cara, speran di tornare. Ah, che partenza amara, Gigina cara, Gigina bella, di me non nutrai forse più novella.
Jean, dès son plus jeune âge, avait manifesté un talent naturel pour la musique, mais il était aussi doué pour raconter des histoires, jongler, faire des acrobaties, des tours de magie qui laissaient son public baba d'admiration. Certes, ce public était un peu naïf et facile à émerveiller. Le quotidien était si rude. Il fallait bien qu'on rie et qu'on s'amuse un peu. Alors Jean, avec pour seules armes sa légèreté, son insouciance et sa joie de vivre, partit sur les chemins, du Stou à Hercé, d'Hercé à Aulus, quelquefois même jusqu'à Foix ou Saint-Giron, les jours de grande foire, pour faire rire et faire danser le rude peuple d'Ariège qui en avait tant besoin. C'est ainsi qu'il rencontra Bootsy, qui rejoignit donc, dans ce qui commençait à devenir un vrai cirque itinérant, une pie qui avait perdu une aile et qui passait sa vie sur l'épaule de Jean, un chien aussi placide et débonnaire que la pie pouvait être vindicative, et Gustave, un accordéoniste que Jean avait sauvé d'un chagrin d'amour. Jean avait trouvé le pauvre Gustave sur un pont qui enjambait le Garbet. Ils allaient se jeter dans l'eau glacée, lui et son accordéon, mais Jean fit comprendre à Gustave que c'était dommage de foutre à l'eau un si bel instrument, et qui pouvait encore servir. « Servir à quoi ?» avait crié Gustave, les yeux pleins de larmes. « Suis-moi et tu verras bien, » avait répondu Jean. « Et si ça ne te plaît pas, le Garbet et le pont ne changeront pas de place. Tu les retrouveras l'année prochaine. » Gustave avait suivi Jean et, au bout de 2 semaines, il avait oublié sa peine et les jolis yeux de la belle qui lui avaient brisé le cœur. Jean était une sorte de saltimbanque insouciant qui tendait toujours la main et venait au secours de toute créature qui en avait besoin, que cette créature soit une pie, un homme ou un ours. Bootsy, l'ourson abandonné, fut adopté aussitôt par tout le reste de la troupe, même si la pie fut, au début, un peu chagrine et un peu jalouse. Il recouvrit la santé en quelques semaines et Jean décida de l'apprivoiser. Oh, rien de bien extraordinaire. Quelques tours sur ses pattes, 2 ou 3 cabrioles, 2 menus pas de danse que la bête exécutait, vêtue d'un énorme tutu rose, ce qui faisait pleurer de rire les spectateurs. Jean, sans jamais user de violence ni de contrainte envers l'animal, en fit en quelques mois l'ours le plus célèbre et le plus fêté des Pyrénées. Bien sûr, cela n'alla pas sans jalousie de la part des autres oussaillés. Jean entraînait aussi, par ailleurs, de vieilles rancunes derrière lui. Comme il plaisait aux femmes et que lui-même était sensible à leur charme, plus d'un mari ou d'un père aurait voulu lui donner une bonne raclée, mais il passait au travers de ses dangers et de ses menaces, comme il passait l'école de la Haute Ariège, en chantant, avec un sourire sur les lèvres.
Ben blacco si la fenna delu popli, proclamero la comuna de Narbuna, candelan se tanto il binghet la prima, candelan se tanto il binghet la prima. Sabem plaque din lunora mese finos,
picat pel cor valent, lo freig coratge. Saben pla de llum i el junt com és de finos. Amb pel cor la valentia, l'audàcia ardenta. És vingut lo temps que los catrevents criden libertat. Inicia con l'esclaire que forceja. Inicia con l'ondado e vero nido.
Ce fut pendant l'hiver 1913 que se déroulèrent les événements que je vais vous raconter ici. Cet hiver fut particulièrement âpre et froid. Les gens ne sortaient plus, c'était comme si toutes les âmes étaient en train de geler, recroquevillées au fond des corps transis et grelottants. Il ne faisait pas bon être pyrénéen pendant cette saison-là, encore moins saltimbanque. Même les cafetiers et les cabaretiers, si prompts et si habiles à faire leur miel en toutes circonstances, qu'ils fassent bon ou mauvais par temps de guerre comme par temps de paix, ne savaient plus comment s'en sortir. Alors, le patron d'un bistrot d'Hercé eut une idée géniale. Géniale. Il remplit une grosse bonbonne de verre, de celles qu'on appelle les dames Jeanne, de piécettes et de billets, tout cela en vrac, puis il scella le récipient avec de la cire et lança le défi suivant. Celle ou celui qui donnerait le montant exact ou le montant qui s'en approcherait le plus de la somme contenue dans la bonbonne gagnerait tout cet argent. On pouvait jouer autant de fois qu'on le voulait. Il suffisait de prendre une consommation dans le bistrot. Enfin, le cafetier ajouta que lui-même ne connaissait pas la somme totale contenue dans la dame Jeanne. Il l'avait remplie au hasard, mais il savait qu'il y avait plus de 5000 francs, ce qui, à cette époque-là, et à cet endroit-là, était considérable. La nouvelle se répandit autour d'Hercé à une vitesse hallucinante. À croire que c'était les corbeaux qu'il avait portés de vallée en vallée. On vint du bout du monde pour jouer. On brava le froid, la neige, le vent, les dangers de la montagne, l'hiver. Certains jouaient 3 ou 4 fois. Ils venaient, revenaient, se mordaient les mains jusqu'au sang quand ils croyaient s'être trompés, échangeaient sans cesse leurs fusils d'épaule. Ils jouaient le chiffre de 6000, puis le lendemain celui de 12000. Oubliant toute logique, tout bon sens. Le cahier, qui enregistrait les résultats, se remplissait à une vitesse inconcevable et rien ne semblait pouvoir arrêter la folie qui entourait la bonbonne. Tout le monde jouait à sa façon, certains avec méthode, d'autres avec nonchalance, mais 3 hommes, les frères Garel, se distinguèrent parmi tous les parieurs. Ils étaient plus pauvres que Job, et trimés comme des bêtes sous le joug d'un père autoritaire et brutal, qui frappait aveuglément sur tout ce qui, chez lui, lui tombait sous la main. Les frères Garel s'étaient dit qu'ils tenaient peut-être, grâce à ce jeu, l'occasion de gagner leur liberté. Ils venaient tous les soirs, vers 8 heures, et ne buvaient rien, ne mangeaient rien dans le café, et n'avaient pas assez d'argent pour ça. Ils avaient décidé de jouer une seule fois, mais de jouer à coup sûr. Alors, ils passaient des heures autour de la bonbonne, comptant, à travers le verre, les pièces et les billets, puis retranscrivant leurs estimations dans un carnet usé jusqu'à la trame. Ils se livraient à des calculs compliqués, observaient le magot sous toutes ses facettes, dessus, dessous, depuis la droite et depuis la gauche, puis ils recommençaient. Il y avait quelque chose de poignant et de désespéré chez eux et, quand on les voyait partir, le dos voûté, après leurs interminables cogitations, tout le monde posait sur eux un regard plein de pitié, même le patron du bistrot.
Saga da dilie
Les résultats furent proclamés le soir du 24 décembre 1913, juste à la veille de Noël. Le hasard avait voulu que Jean et ses acolytes arrivent à ce moment-là. C'était le bon endroit pour faire la fête. Le bistrot était bondé. Jean, pour amuser tout le monde, demanda à l'ours de parier. Pour cela, il étala devant Bootsy les chiffres de 0 à 9 tracés sur des feuilles de papier. Puis l'ours, en se dandinant, en tournant sur lui-même, en grognant, en choisit 4. Jean les nota dans l'ordre et donna le nombre ainsi constitué, 7256, au cafetier qui l'inscrivit dans le cahier. Le public hurlait de rire devant le spectacle de cette fausse gaucherie. Seuls, les frères Garel ne se mêlaient pas à l'excitation générale. Ils avaient parié parmi les derniers et, comme ils se l'étaient promis, une seule fois. Le décompte commença à 11h du soir. On dépassa la somme de 5 000 francs au bout d'un quart d'heure, puis, quelques minutes plus tard, le montant exact tomba. Il était de 7 256 francs. À cette annonce, la stupeur fut totale. Nul n'osa dire un mot. L'ours avait gagné. Les regards se posèrent sur lui. Plus personne désormais ne le trouvait amusant, au contraire. Il avait une posture satisfaite, digne d'un roi de pacotille, et cette indifférence blasée, qui était son expression habituelle au milieu des hommes, devenait tout à coup insupportable. Alors quelqu'un cria, quelqu'un qui avait le nez dans le cahier des paris, « Et les Garel ont joué 7261. Ils ont perdu de 5 francs. 5 francs. 5 francs. 5 francs. » Tout le monde répéta ces mots. Cela devint une antienne lancinante, obsédante, dont le volume semblait destiné à monter jusqu'au délire quand une voix clama « On recompte !» La voix, d'un coup, d'un seul, ramena le silence. C'était Jean. Seul lui pouvait oser. Le silence, cependant, était si lourd de menaces traversé par tellement de tensions invisibles qu'il rajouta, à l'instinct, en bon comédien qu'il était, « Ah, ça serait pas la première fois qu'on se tromperait sur une addition ici, non ?» Tout le monde éclata de rire, même le patron du bistrot, même la patronne. Et on recompta. On confia ça à Jean, qui était le plus honnête, ou plutôt le moins malhonnête. Et le verdict tomba, 7 261 francs. Le tumulte fit trembler la montagne jusqu'au cirque de Gavarnie. Les garelles ont gagné, les garelles ont gagné! Alors on recompta. Et on retrouva 7261. C'était vrai, alors. C'était vrai. Les garelles avaient gagné. L'ours n'avait pas changé d'attitude, ni de posture. Mais tout le monde, à nouveau, l'aimait bien. On se sépara le lendemain matin. Les trois frères étaient rentrés chez eux depuis déjà longtemps. Sur le chemin, quand ils furent loin d'Hercé, Gustave dit à Jean, « Je t'ai vu. »
« Tu as vu quoi, Gustave ?»«
J'ai vu que tu avais rajouté 5 francs dans la bonbonne pour que les garelles gagnent.
»« C'est vrai, je l'ai fait.
Qui d'autre l'a vu, tu crois ?»«
Oh, à part l'ours, le chien et la pie, personne, rassure-toi. »
Ils éclatèrent de rire, puis Jean demanda « Qu'est-ce que tu en penses ?»«
Je pense que tu as bien fait, mais pourquoi l'as-tu fait ?»«
Les garelles en ont plus besoin que moi. Moi, je l'aurais dépensé n'importe comment. Eux, non. Et puis, ces trois frères sont de braves types. Je suis passé parfois chez eux. Ils crèvent la faim, mais ils ont toujours eu un bout de pain pour moi. Et ils m'ont toujours prêté un carré de grange où dormir. »
Voilà.
Ils n'en parlèrent plus jamais. La guerre de 14-18 éclata quelques mois plus tard. Les trois frères Garel y furent tous tués. On peut voir leur nom lié dans la mort sur le monument aux morts de leur village, pas loin d'Hercé. Avant de partir, le plus jeune avait eu le temps de se débarrasser de son père, vite fait, bien fait, et de laisser à sa mère l'argent de la bonbonne. Gustave survécut aux tranchées. C'est lui qui m'a raconté cette histoire. Jean, lui, est mort sur la route, battu à mort par des inconnus ou par des gendarmes. Il avait refusé de partir à la guerre, il avait déserté. Il voulait rester dans ses montagnes. Boutsy, l'ours saltimbanque et le chien gisaient à côté de lui. Fin du spectacle ambulant, fin de la joie, fin des rires et des chansons. Au loin, très loin, le canon tonnait. Les Pyrénées, elles, plus belles que jamais, se riaient de nos destins de pacotille.
Je resterai ici, je ne partirai pas. Même si je sais par cœur qu'il fait toujours meilleur ailleurs, mais je resterai là pour la couleur du ciel, de ces jours de grand vent qui n'en finissent pas. Tu peux partir en guerre contre n'importe quoi, et suivre la musique qui marche au pas. Dis-moi ce que tu veux, moi je ne t'écoute pas. J'ai d'autres rêves à faire que celui-là. Je resterai ici, je ne partirai pas. Même si je sais par cœur qui fait toujours meilleur ailleurs, mais je resterai là pour la couleur du ciel, de ces jours de grand vent qui n'en finissent pas. J'écoute en souriant ces fausses nouvelles qui vont et qui s'en viennent, comme un océan, comme la fausse monnaie qui passe de poche en poche, me laissant ni plus riche ni plus malin qu'avant. Je resterai ici, je ne partirai pas, même si je sais par cœur qui fait toujours meilleur ailleurs, mais je resterai là pour la couleur du ciel de ces jours de grand vent qui n'en finissent pas. À l'autre bout du monde, tu vas brûler ta vie. Tu défais tes amours et tes amis. Et on connaît ton nom jusqu'à Jérusalem. On ne vit jamais près de ce qu'on aime. Je resterai ici. Je ne partirai pas, même si je sais par cœur qu'il fait toujours meilleur ailleurs. Mais je resterai là pour la couleur du ciel, de ces jours de grand vent qui n'en finissent pas. Je resterai ici. Je ne partirai pas, même si je sais par cœur qu'il fait toujours meilleur ailleurs. Mais je resterai là pour la couleur du ciel, de ces jours de grand vent qui n'en finissent pas.